Frères et sœurs, nous sommes tous conscients. Est-ce qu'on peut enlever cet effet d'écho sur la salle? Parce que j'ai l'impression d'être Moïse sur la montagne. Merci, c'est gentil. Ah, ça y est, parfois, oulala, je suis arrivé où? Non, non. Je reste tout petit là où je suis. J'aimerais partager avec vous, avec plusieurs thèmes, mais sur une pensée unique pendant quelques semaines. De ce que c'est une vie centrée sur Christ. Il est nécessaire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, de recentrer les choses, de revenir à l'essentiel. Il y a plein de choses qui s'immiscent dans notre vie de tous les jours et qui nous amènent en réalité à nous écarter de ce qui est la volonté de Dieu. Et parfois, on pense même par nos propres moyens, par nos efforts, par nos actions, pouvoir gagner des parts, pouvoir rentrer davantage dans le projet de Dieu, mais par nos propres efforts. Or, c'est une erreur. On ne peut rien rajouter à notre salut, que ce soit clair. Tout a été accompli à la croix, mais il est question pour nous de centrer notre vie sur Christ. Alors, Seigneur a mis ce sujet sur mon cœur depuis quelque temps. Et ce matin, j'aimerais parler de ce que c'est demeurer en lui. Qu'est-ce que c'est de demeurer? Le mot demeurer, je suis allé encore ce matin fouiller dans les dictionnaires. Il y a plusieurs interprétations à ce mot, mais c'est attendre, rester, séjourner, continuer, endurer, persévérer. Un mot. Ô combien de sens, ô combien de profondeur dans cette parole. Nous allons examiner quelques textes de la parole de Dieu en commençant par l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 5. Jean, chapitre 15, verset 5, qui dit « Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. » C'est court, c'est précis, c'est concis, mais il y a tellement à dire. La première chose, c'est qu'il est question pour nous de bien comprendre qu'est-ce que nous sommes, qui nous sommes, qui est le cep. Nous ne sommes que des sarments. Et parfois, on a tendance à se prendre pas seulement pour le sarment, mais pour la vigne tout entière. Et le Seigneur nous dit, attention, moi, je suis le cep. Personne ne peut prendre la place du Seigneur, n'est-ce pas? Nous devons reconnaître que notre place, autant que serment, est d'être attaché à ce cep. Il est question de celui qui demeure en moi, dit la parole de Dieu. Celui qui demeure en moi, celui qui attend, celui qui reste, celui qui séjourne, celui qui continue, celui qui endure, celui qui persévère. Amen. En lui. Autant de choses, frères et sœurs, qui demandent de notre part du travail, de notre part un engagement profond. Dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 15, le verset 6, il dira « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Il est jeté dehors, il est séparé de la présence de Dieu. Il est impensable pour nous, frères et sœurs, de pouvoir croire que nous pouvons vivre notre vie spirituelle tout seul dans notre coin. Oui, mais Jésus a dit qu'il sera toujours avec moi. Oui, à condition que toi, tu sois avec lui. Lisez bien le texte. Si quelqu'un demeure en moi. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne demeure pas en lui? Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'incompréhension. Il n'y a pas de stade intermédiaire. Vous savez, le paradis, le purgatoire, avant d'arriver à l'enfer. Et si tu fais un chèque ou deux, tu peux remonter dans les stats. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il est question pour nous de comprendre qu'on ne peut pas acheter la vie éternelle. Ni par l'argent, ni par les œuvres, ni par ce que les autres peuvent faire pour nous. Il est question pour nous de saisir qu'il est question d'un serment qui, s'il est séparé du cep, qu'est-ce qui se passe ? Il sèche. Le serment dans lequel il n'y a plus de vie qui coule, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il ne pourra plus rien faire une fois qu'il est retranché. Vous avez déjà vu ce qui se passe dans les vignes quand on prépare, non ? Avant que ce soit le temps, la saison où le fruit vient, il y a un travail qui est fait dans les vignes. Et ce travail consiste à nettoyer, à émonder, enlever tout ce qui ne sert à rien. Et une fois que c'est coupé, il ne le laisse pas comme ça par terre à pourrir. Non, généralement, il le brûle. Ça sert à chauffer. Et la parole de Dieu nous dit que ce qui est jeté dehors, il sèche. Et donc, le but, c'est qu'il est récolté avec ceux qui ont fait le même choix. Soyons pas étonnés qu'à un certain moment, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Parce qu'ils vont dans la même direction. Et nous, on pourrait être étonnés de dire, mais Seigneur, j'ai le sentiment d'aller contre-courant. Alléluia, mon frère et ma sœur. Dis-toi, heureusement que tu vas contre-courant. Parce que si tu prends le courant de ce monde, l'adresse n'est pas bonne. N'est pas en tous les cas celle que le Seigneur souhaite pour toi. Et il dit le texte, on les jette au feu et ils brûlent. La seule fin possible est le feu éternel. Et ça, c'est dit. Alors je crois qu'il est impossible pour les hommes de pouvoir se sauver eux-mêmes par leurs propres idées, par leur propre idéologie. Et encore moins pour nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, qui avons pris cet engagement avec le Seigneur, que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, mais très souvent plus Sauveur que Seigneur, parce qu'on aime bien qu'il nous sauve, mais quand c'est question de prendre les directions et les décisions, on les prend tout seul. Et parfois, on considère qu'on peut vivre séparé de celui qui est en effet la vie. Jésus-Christ, on s'éloigne un peu et on dit oui, mais Dieu est avec moi. Sois sûr que Dieu soit avec toi. Un jour, un chrétien me disait, vous savez, Dieu nous suit. Ah bon ? Lui, t'as vu ça où écrit ? Trouve-moi ça dans la Bible. Oui, mais Dieu nous suit. Je dis, c'est faux. C'est toi qui dois suivre Dieu. Si tu t'éloignes, Dieu te regarde de loin. Et encore, estime-toi vraiment de vivre la grâce quand il vient te rechercher, comme le berger fait avec la brebis. Mais si tu vas trop loin, c'est toi qui as pris la décision de t'écarter. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 34, il est écrit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen. C'est magnifique jusque-là, hein ? Il est question, par contre, en tous les cas, de considérer qu'il y a un moment, la sélection, le choix, c'est Dieu qui l'a fait et il a des moyens de pouvoir savoir de quel côté nous devons aller. Alors, peut-être que la question vous a été déjà posée, êtes-vous brebis ou bouc ? Il y a une grande différence entre les brebis et les boucs. Vous la connaissez ? Laquelle ? Ah, ça commence par l'odeur, hein. Mais il y a tout. Une brebis a toujours cette habitude de se nourrir de ce qu'il y a au sol. Il baisse la tête. La brebis est une des images que Jésus a choisies pour nous parler d'humilité, pour nous parler de douceur, pour nous parler d'obéissance, pour nous parler de cette brebis qui va à l'abattoir sans rien dire. C'est à ça qu'on doit tendre. Si ma vie, elle demeure en Christ, je dois ressembler à mon maître. Je dois ressembler à mon Seigneur. Mon caractère, mon être tout entier, doit se plier pour tendre à cela. Le bouc, il est indiscipliné. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, s'il le veut. Il ne se nourrit pas de ce qu'il y a par terre, il préfère manger ce qu'il y a sur les arbres. Il aime bien ces petites tiges, toutes fraîches. Et vous savez, sa salive est tellement acide qu'il tue l'arbre. Il faut savoir, hein. Il y a les effets. Hein. Il va, il parle à droite, à gauche, et il fait plus de mal que de bien. Et vous pouvez prendre un bouc, lui couper les cornes, lui mettre une peau d'agneau dessus, on le reconnaîtra toujours. Son odeur déjà. Mais son caractère, il sera toujours là. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas tomber dans le piège de penser pouvoir maquiller notre vie en nous donnant une image de respectabilité et d'être des brebis le dimanche matin et des boucs dès la sortie du culte. Parce que la parole de Dieu nous dit que les brebis seront mis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ses brebis, si vous lisez bien avec moi le texte, il dit « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Amen. C'est magnifique ça. Verset 41 du même chapitre, Matthieu 25. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est qui ? Les boucs. « Retirez-vous de moi, maudits. » Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Waouh ! La destination n'est pas la même. Ne fait pas rêver celle-ci. Hein. Il n'y a pas, j'espère, de personnes qui désirent aujourd'hui dire « moi, je préfère la deuxième destination ». Et au verset 46 du même chapitre, il dira « et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle ». Il y a un éternel, mais avec deux adresses différentes. Et il est important pour nous, frères et sœurs, de savoir qu'une vie qui n'est pas liée à Christ est une vie morte. Si aujourd'hui nous examinons notre cœur et nous nous rendons compte que nous sommes peut-être éloignés de cette pensée, pas ce concept, mais cette réalité spirituelle qui est celle de demeurer en Christ, nous devons de suite, c'est pas ce soir, c'est pas demain, c'est de suite régler le problème et dire « Seigneur, moi je veux demeurer en toi. Pardon, Seigneur, de m'être écarté, même si ce n'est que pour un instant. » La chose la plus terrible que j'ai vécue dans ma vie, frères et sœurs, c'est le jour où, par mes choix, je me suis éloigné du Seigneur et j'ai eu ce sentiment qu'on vivait quand, je l'exprime comme ça, vous rappelez quand on avait les vieux combinés téléphoniques, vous soulevez le combiné, vous avez une tonalité. C'est vrai ? Qu'est-ce qui se passait s'il n'y avait aucune tonalité ? Vous disiez, ah, la ligne a été... Eh bien, quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande, il y a ce sentiment-là de dire, la ligne a été coupée. Vous pouvez parler dans votre combiné, mais... ça n'ira pas plus loin. Cette ligne, elle est coupée à cause de notre attitude, à cause de nos actions, à cause de nos paroles, à cause de nos choix. Mais la parole de Dieu, il nous encourage, frères et sœurs, à demeurer en lui. Alors, si d'un côté, nous avons bien compris ce qui se produit pour celui qui ne demeure pas en Dieu, qui ne demeure pas en Christ, il est question pour nous de comprendre aussi quel est le bienfait de demeurer dans le Seigneur. Parce que si on se dit endurer et persévérer, oh là là, c'est dur, c'est compliqué. Comment je peux endurer, persévérer toute ma vie ? Comment je vais pouvoir rester et attendre continuellement sans peut-être rien voir ? Et c'est là que le Seigneur ajoute quelque chose de merveilleux. Jean chapitre 15, verset 7, qui dira « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Waouh ! Alors là, oui, Seigneur, c'est beaucoup plus facile de persévérer. Êtes-vous d'accord ou pas ? C'est beaucoup plus facile parce que nous savons, Seigneur, que certes, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas de choses difficiles, mais nous pouvons faire recours à toi à tout moment. Et quand il est question pour nous de dire on demande ce qu'on veut, c'est question que le lien de l'homme avec Christ fait couler dans le cœur de l'homme, dans son âme et dans sa vie, le désir qui est celui de son Sauveur. Si Christ, si la pensée de Christ, si la vie de Christ coule en moi, ce que je vais désirer ne sera pas contre la pensée de Christ. Parce qu'il y aura eu une transfusion de pensée. Ce n'est plus moi qui pense. Combien de fois vous dites par jour « je pense que » Hein ? Est-ce que déjà quelqu'un vous a dit « ne pense pas » Je pense pour toi. Ah, c'est dur ça, on n'aime pas. Hein. T'inquiète pas, je pense pour toi, rassure-toi, détends-toi. Et c'est là qu'on stresse le plus. Moi, quand on me dit « ne vous inquiétez pas », c'est là que je m'inquiète. Non ? Vous allez au garagiste, vous ramenez votre voiture, « ne vous inquiétez pas », et là, vous commencez à transpirer. Parce qu'il y a toujours des mauvaises surprises. Sauf que quand on est en Christ, la surprise qui nous attend, c'est de voir ce que Christ a préparé pour nous. Et quand nous allons auprès du Père en priant, en demandant au Seigneur ce qu'on voudrait, la pensée de Christ est tellement ancrée dans notre cœur que forcément nous l'obtiendrons. Parce que ce que nous désirons, c'est que Christ soit glorifié. Je lisais dans la parole de Dieu, il est question de communion. Il est question pour nous d'être rattachés vraiment au Seigneur. Et je me suis rendu compte qu'il y a deux grandes explications. La première, on la trouve dans l'Ancien Testament, où en effet la communion était un sacrifice, le sacrifice de communion. C'était une des explications du texte. La communion, souvent, elle est amenée au sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, il est question de relation. La communion, relation. Alors, il est question de la communion avec le Père et le Fils. 1 Jean chapitre 1, versets 2 et 3, il dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Amen. Nous devons favoriser dans notre vie cette communion. Il est question de communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Quelle meilleure salutation que celle-ci, n'est-ce pas? Et si on va encore en 1 Jean chapitre 1, verset 7, on voit qu'il est question de la communion des uns avec les autres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On revient à l'image de l'Ancien Testament, le sacrifice. Cette communion est toujours scellée dans le sacrifice, mais cette fois-ci, celui de Christ lui-même. Il n'y a pas de communion possible avec Dieu sans passer par le sang de Jésus-Christ. Et même entre nous, frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, si le sang de Christ ne vient pas intervenir dans notre vie et dans notre caractère, même la communion entre nous est difficile. Combien de fois nous pouvons être en désaccord avec les autres, voire même pas d'accord du tout. Ce n'est pas un désaccord, on est d'accord sur rien. Mais c'est le sang de Christ qui vient en effet nous amener, nous dire, mais ce qui est important, ce n'est pas ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que lui pense, c'est ce que Dieu pense. Et là, ça remet les choses dans le bon ordre. Ça nous rappelle ce que nous sommes vraiment. Et nous sommes quoi ? Des sarments. C'est lui le cep. Amen. Il y a un texte que j'aimerais partager avec vous qui est écrit en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17, qui parle de la coupe. Nous venons de prendre la Sainte Cène, mais le texte il nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous un même pain. » C'est à cela que Dieu nous appelle. Notre manière de nous approcher du pain et du vin ne doit pas être seulement le reflet de notre relation personnelle avec Dieu. mais de l'obéissance à toute sa parole, mais aussi de la relation que nous avons les uns avec les autres. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, si tu as quelque chose vers quelqu'un, va le voir, règle ton problème. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, va le voir pour régler le problème. Il est même question de ne pas apporter notre offrande tant que nous n'avons pas réglé notre problème. Mais il arrive parfois qu'on attend beaucoup de temps. Et pourtant, Dieu nous dit, va régler ton problème. Oui, mais je veux être en communion avec le Seigneur. Moi, il faut m'expliquer comment. Comment je peux être en communion avec le Seigneur s'il y a quelque part, je sais que j'ai fait un tort ou que j'ai mal agi envers un frère et que par orgueil, je ne prends pas la peine d'aller le voir et de lui dire, mon frère, je dois te demander pardon. Je ne peux pas rester comme ça, je dois te demander pardon. Parce que tant que je ne le fais pas, j'ai un fardeau, j'ai un poids lourd sur mon cœur et je sens que le Seigneur n'est pas d'accord avec moi. Alors certes, vous pouvez vous dire, Seigneur, je prends ma Sainte-Seine et en sortant, je vais régler mon problème. Faites-le. Prenez cet engagement. Soyez sérieux avec Dieu. Mais allez jusqu'au bout. Ne dites pas, ah Seigneur, mince, il est à 10 mètres de moi, je ne peux pas courir. Tu sais, Seigneur, ce matin, je n'ai pas les chaussures d'athlétisme. Et je vais te dire, enlève tes chaussures, vas-y pieds nus. Mais règle ton problème. Reste pas comme ça. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Je me rappelle d'une histoire vraie. Hein. On connaissait un frère qui était très engagé. Ce frère, tout ce qui comptait pour lui, c'était l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qu'on se dit, on aimerait en avoir comme ça, toujours disponible pour l'œuvre de Dieu, toujours disponible. L'évangélisation, c'était le premier, ceci était le premier. Mais il avait quand même ses défauts. C'était toujours le premier, mais il arrivait toujours le dernier. Il voulait y être, mais il était toujours en retard. Et c'est vrai que le fait d'être tout le temps en retard, c'était quand même gênant. C'était parfois même agaçant. Et je me rappelle qu'un jour, ce frère, il devait arriver, mais comme toujours, les autres se sont dit, il est en retard. Et après avoir dit, il est en retard, ça a été plus loin. Ah, il n'est pas... C'est pas sage, c'est pas bien. Il y a des pensées qui sont venues, qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas justes. Et seulement le soir, on a appris que le frère était tombé du train, il était mort. Je vous laisse imaginer quel était le cœur de ceux qui ont parlé et qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin et qu'ils ne pourront pas aller vers ce frère et lui dire, frère, pardon. Parfois, on fait les choses et on n'y réfléchit pas, mais est-ce que quelque part, ça ne touche pas après à notre relation avec Dieu? Est-ce que l'ennemi ne s'en servira pas pour venir à nouveau commencer à mettre des coups de fouet sur notre dos en disant, hey, bon chrétien, tu chantes Alléluia, mais qu'est-ce que tu as dit dimanche? Qu'est-ce que tu as dit mardi? Qu'est-ce que tu as dit vendredi? Comment tu as parlé de ton frère? Comment tu as parlé de ta sœur? Alors vous savez, je pense que des fois, moi je dis, Seigneur, aide-moi à rester en silence. Il y a des fois des choses qui nous chatouillent, hein, qui nous gratouillent. Je ne sais pas comment ça se dit. Ils font venir l'urticaire, hein, démangeaisons. Et Seigneur te dit, tais-toi. Eh bien, je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, taisons-nous. Parce que parfois, on est loin de la vérité, on est loin de la réalité. Si on voit quelque chose qui ne va pas, ayons le courage et l'amour d'aller voir la personne et dire, mon frère, pourquoi tu arrives en retard? Et peut-être qu'on découvre qu'il n'a pas d'autre moyen de transport et que nous, on passe juste à côté de chez lui et on peut le prendre et régler le problème de son retard. C'est bon ça, non? Et là, Seigneur, qu'est-ce que c'est bon, on se sent heureux. Seigneur, j'aurais pu dire des choses que je n'aurais pas dû dire, mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est nickel, ça. C'est une grâce. Et c'est en agissant comme ça qu'en effet, on porte du fruit et du fruit qui demeure. Je continue. Je pense qu'il est important pour nous de comprendre pourquoi il est important pour nous de demeurer en Christ, demeurer dans la paix avec Dieu, demeurer dans la paix et la communion fraternelle. Le fait de ne pas prendre la Sainte Cène n'est pas une solution en soi, c'est une mesure de précaution. Mais la véritable solution est de restaurer là où les relations, où les situations, où les circonstances font qu'il y a une blessure. Notre vie de prière et l'exaucement de nos requêtes demandent aussi un sacrifice. Il y a parfois des prières qui sont faciles à faire, hein ? Non ? Mais il y a des prières qui coûtent. Vous vous rappelez de ce moment où Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémané, hein, au pressoir. Ce pressoir où il y a une pression telle que la parole de Dieu nous dit que Jésus va faire une demande au Père. Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Alors vous savez, il y a des fois des prières qu'on voudrait que Dieu exauce. Mais la réponse, on l'a déjà dans la suite de la prière. Père, non pas ma volonté, la tienne. Peut-être que ta vie, elle est dans un passage où tu as besoin de dire, Seigneur, aide-moi, parce que tout seul, je n'y arrive pas. C'est un sacrifice que tu me demandes. Et moi, en lisant ce texte, j'ai beaucoup appris pour ma vie personnelle. Et je me suis dit, Seigneur, toi-même, tu as fait recours à une prière qui est sur la bouche de chacun. Parce qu'il y a des moments où on dit, Seigneur, c'est trop lourd, c'est trop difficile pour moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier comme ça ? De dire, Seigneur, c'est trop lourd, j'y arrive pas. C'est trop compliqué, s'il te plaît, trouve une autre solution, Seigneur. Seigneur, fais autrement, mais moi, j'y arrive plus, Seigneur. Trop, c'est trop. Et la grâce que nous avons, c'est que si nous avons aussi cette pensée qui est la suite de la prière de Jésus, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, c'est qu'à un moment, Dieu envoie un ange pour nous soutenir, comme il a fait avec Jésus. Et combien il est bon le soutien du Seigneur. Mais vous savez, de telles requêtes, on ne peut les faire que si on est en communion avec Dieu, que si on demeure en Christ, que si nous avons cette relation avec Dieu qui passe par Jésus-Christ. Si ma prière, elle est à l'image de celui qui est Jésus-Christ, dans l'obéissance et dans l'humilité et dans le fait de me dire, Seigneur, moi je me soumets à ta volonté, ben là je peux compter sur le secours de Dieu. Je peux vraiment compter sur l'aide de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est que nous puissions porter du fruit. Amen. Alors le texte dit, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors il est question de porter. Je me suis rendu compte que nous, parfois, on utilise le mauvais terme. Il est question de porter, de produire. On pourrait dire pourquoi il dit porter au lieu de dire de produire du fruit. Parce que les deux termes existent dans la Bible. Mais ils ont deux significations bien différentes. Là, il est question de porter. En effet, il est question pour nous de porter un fruit, mais qui n'est que le résultat de ce que Dieu fait dans notre vie. En effet, nous ne sommes que des exécutants de ce que Dieu met dans notre vie. Ce n'est pas nous qui produisons un fruit, c'est Dieu qui le produit par nous, avec nous. Amen. Nous, on n'y est pour rien. La sève, elle nous vient de Jésus-Christ. La bonne nourriture, elle nous vient de Jésus-Christ. Le fruit, il est bon parce que c'est lui qui est en train de faire quelque chose. Nous, nous sommes que des instruments. On porte. Et il est question pour nous de nous présenter devant Dieu en apportant un fruit digne de la gloire de Dieu. Et si même demain, des foules étaient venues à Jésus-Christ, par le message que Dieu a pu nous donner. Ce ne sera jamais, Seigneur, t'as vu, 3 000, hein, d'un coup. Et Pierre te regarde, moi, 5 000. Allez, qui c'est qui relance ? Parce qu'on est un peu comme ça, non ? Mais mon frère, que ce soit 1 ou 1 000 ou 10 000, ce ne sera jamais l'effet ou le fruit personnel. Ce sera ce que Dieu t'a donné de porter. Et si Dieu l'a fait, mais bénis Dieu parce qu'il t'a considéré digne de pouvoir porter du fruit. Point à la ligne. Ne reste pas là avec ta calculette. Ne sois pas là à considérer, Seigneur, alors quelle place tu vas me donner maintenant dans le ciel. Seigneur, vu tout ce que j'ai fait ici, parce que vous savez, dans le ciel, les premiers seront... Ah ! Ça nous... Ah ! C'est pas logique. Oui, mais le ciel n'est pas dans la logique humaine et charnelle. Hein. C'est la logique de Dieu. Alors, vous imaginez ? Il y a une histoire. Comprenez-la bien. Il y a deux personnes qui sont là et qui arrivent au bout de leur vie et se retrouvent dans le ciel. Le premier, c'est un pasteur. Il est reçu. Il dit, ouais, t'as fait du bon travail, mon frère. Rentre. Et après, il y a un chauffeur de taxi. Et lui, il est reçu avec les grands honneurs. Et le pasteur, il dit, mais je ne comprends pas. Comment est-il possible que lui, il est reçu comme ça et moi, qui j'ai servi le Seigneur toute ma vie, j'ai prêché l'évangile, j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est juste rentre, mon frère. Je ne comprends pas. Et alors, on vérifie. Et on lui dit, tu sais, pendant que toi, tu prêchais, tout le monde dormait. Quand lui conduisait, tout le monde priait. Cela pour dire que quel qu'il soit le service dans lequel Dieu nous met, alors il n'est pas question de conduire comme des pirates sur la route pour que tout le monde prie. Mais il est question de dire, ne soyons pas dans l'idée qu'il n'y a qu'un poste qui va être le mieux récompensé. Quel qu'il soit le service que Dieu nous confie, faisons de notre mieux, portant du fruit pour le Seigneur. Amen. Et quand vous repartez de ce lieu, soyez respectueux de limitation de vitesse. Si vous avez un PV, vous en PV un deuxième pour le Seigneur. Comme ça, ça soigne. Et le trésorier sera heureux. Il est question de produire. Mais si vous regardez bien dans les textes, il est question de produire un fruit. Produisez donc le fruit digne de repentance. Matthieu chapitre 3, verset 8. C'est autre chose. Il est question pour nous de produire, ça veut dire faire, observer, rendre, agir, pratiquer, porter, mettre en pratique, travailler. Ça veut dire qu'il y a sa part d'un effort déjà personnel où nous faisons preuve d'une décision et d'une détermination personnelle et d'une ferme volonté à tourner le dos au passé pour marcher dans les voies de Dieu, une œuvre qui sera visible aussi aux autres portées du fruit. Il faut que le changement que Dieu accompli dans notre cœur, soit visible par les autres. Est-ce que notre changement est visible ? Vous vous rappelez de ce témoignage que je vous ai apporté un dimanche ? De cet homme qui faisait le tour des églises pour témoigner. Et alors, il faisait le tour des églises où on ne le connaissait pas. Et au moment du témoignage, est-ce que je peux témoigner de mon salut ? Avant, j'étais ceci, avant, j'étais cela, avant, j'étais ceci, avant, j'étais cela. Ça dure un bon moment, ce avant. Hein. Et sauf qu'il ne s'est pas aperçu que son voisin était tout au fond. Et au moment où il dit, mais maintenant, la voix du fond s'élève en disant, c'est pire. C'était la réalité. Histoire vraie. Hein. Ce n'est pas une blague, c'est une histoire vraie. C'est terrible une chose pareille, non ? C'est terrible même de croire, de pouvoir en réalité, pas seulement se prendre jeu de Dieu, mais de mentir à tout le corps de Christ. Et quand dans notre vie nous ne sommes pas en règle, frères et sœurs, nous ne croyons pas que ça ne se sent pas. Nous avons parlé tout à l'heure de l'odeur du bouc. Quand nous agissons mal, frères et sœurs, l'odeur du bouc remonte. Hein. On a beau se mettre contre courant, on se dit, ça ne sent pas bon là. Ça ne sent pas bon. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à être de ceux qui portent du fruit et qui en produisent aussi, mais qui soient dignes de notre Seigneur. Je termine. 5 points, ça va. Ça va être rapide. Jean chapitre 15, versets 8 à 17. Il est question pour nous de demeurer en Christ et attendre d'atteindre ses objectifs pour nous, parce que le but, c'est pour nous de grandir avec le Seigneur. Jean chapitre 15, versets 8 à 17, dira « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus que grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez à mon Père, en son nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Moi, j'ai trouvé sur ce texte-là 5 choses qui doivent être des buts pour nous. La première, c'est celle de glorifier le Père. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Et d'autres traductions disent, et que vous soyez mes disciples. Porter du fruit et être ses disciples. Marcher avec le Seigneur. Écouter et exécuter ce que le Maître nous dit et nous demande. Amen. Vivre et aimer. Il dira, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ce n'est pas écrit au passé, hein. C'est encore au présent. Le Seigneur demeure dans la parole du Père. Si nous, nous voulons connaître l'amour du Père, frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix que de demeurer dans sa parole. Qu'est-ce qu'elle dit, sa parole ? Eh bien, c'est ça, et ça ne sera pas autre chose. Inutile pour nous de chercher de faire des règles et des contre-règles. La parole dit ceci, mais on essaie de trouver le moyen de lui faire dire autre chose. Alors, on la découpe, on la retranche, on la change, on la modifie, on dit voilà, maintenant ça m'arrange. Ou voire même, cette parole, elle nous dérange, on enlève la page. Il y a des Bibles, je ne sais pas si vous avez cette habitude, il y en a qui mettent du stabilo pour que ça ressorte. Mais il y en a d'autres qui le font en noir. Comme ça, ça ne ressort plus. Ce texte ne me plaît pas. Eh bien, si vous regardez avec le temps, il n'y a plus grand-chose qui ressort si ce n'est pas le nom, le numéro du chapitre et le numéro de la page. Parce qu'il y a plein de choses qui nous dérangent. Sauf que la parole, vous avez beau essayer de la stabiler, stabiloter, merci, elle demeure. Elle a une valeur pas seulement ici-bas, mais aussi dans le ciel. Et quand on sera devant le Seigneur, c'est sur cette parole que nous allons être jugés. Troisième chose, connaître le véritable épanouissement. Qui veut être épanoui ? Un chrétien épanoui. Un chrétien heureux. Les autres, s'ils n'ont pas répondu, c'est qu'ils le sont déjà. Il dit, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je ne peux pas connaître l'épanouissement si la joie du Seigneur n'est pas en moi. Et je ne peux pas connaître la joie du Seigneur si je ne suis pas en communion avec lui, si je ne demeure pas en lui. J'ai trouvé quelque chose encore qui m'a interpellé, c'est que Christ nous appelle ses amis. Il y a un homme dans la Bible qui était appelé l'ami de Dieu. C'est qui ? Qui était l'ami de Dieu ? David ? C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Qui était l'ami de Dieu ? Je vais vous laisser dans le doute, vous allez chercher. C'est dans l'Ancien Testament, je vous ai aidé. Hein. L'ami de Dieu, c'est Moïse. Je vous aide. Hein. C'est dimanche, hein. Soyons gentils, c'est la rentrée. Hein. C'est Moïse. Il y avait une telle relation. Vous en connaissez beaucoup, vous, qui allez parler avec Dieu, d'homme à homme, comme un ami ? Qui voudrait de ça ? Levez la main, n'ayez pas peur. Comme ça, si le Seigneur se révèle à vous cette nuit, il dit, j'ai eu raison de lever la main, moi. Pas de timidité. Mais vous savez, frères et sœurs, le Seigneur le désire, hein, le veut. Il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce qui fait le maître. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Quelle grâce pour nous de savoir ce que Dieu pense. Comment je peux connaître la pensée de Dieu ? Ben, il faut avoir cette relation d'amitié avec Christ, cette intimité, cette proximité, ce désir de prendre du temps avec le Seigneur. Et il est question pour nous, frères et sœurs, de saisir la grâce dans toute sa grandeur, puisqu'il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il arrive parfois que, en tant qu'enfant de Dieu, on se pose la question « Pourquoi Dieu m'a sauvé ?» Il arrive par moments qu'on peut se dire « Mais je ne comprends pas. Seigneur, j'ai fait tellement d'erreurs, pourquoi tu as choisi de me sauver ?»« Seigneur, je suis tellement défectueux ou défectueuse que je ne comprends pas pourquoi tu m'as sauvé. » Seigneur, je n'ai pas réussi à faire ce que je t'avais promis au début d'année. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as sauvé. Seigneur, mon père, ma mère, ils ne m'ont pas aimé. Pourquoi toi, tu m'aimes ? Pourquoi tu m'as sauvé ? Seigneur, je ne réussis pas dans ce que je fais dans la vie. Pourquoi toi, tu m'as sauvé ? Il y a tellement de raisons que l'ennemi aimerait mettre sur notre cœur et des fardeaux qui pourraient nous empêcher, frères et sœurs, finalement, de demeurer en Christ. Mais demeurer en Christ, ça veut dire qu'on doit prendre conscience que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui. Et quand je regarde un frère et une sœur, je vais jusque-là, hein, vous, je dois considérer que ce frère ou cette sœur et tous les défauts qu'elle a, et certainement moins que les miens, si elle est là, parce que c'est Jésus qui l'a choisi. Et que je dois tout faire pour que ce frère, cette sœur puisse y rester. Que Dieu nous garde d'être de scandale pour quelqu'un. Mieux vaut pour nous de prendre une pierre de meule, tachée au cou et au fond de la mer. Terrible, hein ? Mais quelle grâce elle est, la nôtre, qui est celle de demeurer en Christ. Que se passe-t-il quand on demeure en Christ ? On court dans la maison de l'Éternel parce que notre cœur est dans la joie. Quand je vois un frère, quand je vois une sœur, mon cœur explose d'allégresse parce que je vois la gloire de mon Dieu. Alors, en vous saluant tout à l'heure, regardez bien la gloire du Seigneur dans votre frère, dans votre sœur. Ah oui, mais c'est une gloire à 30%. Attention, tu n'es personne pour juger. Et si c'était le cas, ben dis Seigneur, accomplis ton œuvre à 100% dans sa vie. Non ? Et peut-être que le 30% que la personne est là, c'est le 30% qui te manque. Approche-toi, frotte-toi, mets-toi à côté, vous allez briller à 100%. Non ? Mais il est question pour nous de dire, Seigneur, tu m'as choisi. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, j'aimerais bien que cette nouvelle saison, cette nouvelle année scolaire, soit une année où nous pouvons véritablement, frères et sœurs, expérimenter ce que c'est de demeurer en Christ. Je voudrais encourager tous les enfants, tous les jeunes qui sont aux études, demeurer en Christ. Je voudrais dire aux parents, quand vous les amenez le dimanche pour que les enfants soient au gib, ce n'est pas pour qu'ils aient des nounous, c'est pour qu'ils apprennent eux aussi comment demeurer en Christ. Parce que si ils n'apprennent pas tout de suite ce que c'est demeurer en Christ, il y en a un qui va essayer de les tirer dehors. Et un jour, vous allez pleurer, nous allons pleurer. C'est terrible, n'est-ce pas ? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, cette année, nous voulons vivre encore plus avec toi ? Qui est prêt à dire « Je veux vivre plus avec le Seigneur » C'est vrai ? Alors sachez que qui veut plus doit être prêt aussi à donner plus de sa personne dans sa relation avec Christ, dans cette communion avec Christ. Un frère disait « Avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, il faut au moins que je prie 3 heures. » Et il se levait à 5 heures du matin pour prier. Et quelqu'un lui disait « Mais tu peux peut-être gagner du temps. » « Ah non, 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 tout ce que j'ai à faire, j'ai au moins 3 heures de prière. » Parce que quand c'est nous qui faisons les choses, frères et sœurs, on va y mettre beaucoup d'énergie. Quand c'est Christ qui les fait, ça marche tout seul. Mais ça, on l'apprend que si on demeure en Christ. Tu as des problèmes dans ton travail, mon frère, ma sœur ? Demeure en Christ. Il y a des problèmes dans ton couple ? Demeure en Christ. Il y a des problèmes dans ta famille ? Il y a des problèmes dans la communion fraternelle ? Demeure en Christ. Il y a des difficultés par lesquelles tu passes ? Demeure en Christ. Et tu verras de quelle manière le Seigneur va te relever, de quelle manière le Seigneur va intervenir. On va fermer nos yeux ? Seigneur, être centré sur toi, ça veut dire que tu es le centre de notre vie et que tout tourne autour de toi. Nous ne prenons pas une décision sans que toi, tu nous aies donné ton accord. Nous ne faisons pas un acte avant que toi, tu nous aies demandé de le faire, Seigneur. Seigneur, c'est pour nous une manière de nous dire, Seigneur, je suis attaché à toi. Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi qui es le centre de ma vie. Seigneur, nous te prions pour cette nouvelle année scolaire qui commence et nous te confions, Seigneur, tous nos enfants. Nous te confions toute notre jeunesse. Nous te confions, Seigneur, les couples, les familles. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions, dans cette année qui se prépare déjà avec un certain nombre de difficultés, Seigneur, en ce qui nous concerne, demeurer dans la paix et demeurer en toi. Seigneur, nous plaçons notre avenir entre tes mains. Ce n'est pas le monde qui a la réponse, mais notre réponse est Jésus-Christ. Merci Seigneur encore pour ta grâce, Seigneur, manifestée dans le fait que tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu es venu nous appeler. Seigneur, nous nous confions en toi et nous plaçons toute notre vie entre tes mains en te disant à toi la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen.